Journal de la mi-journée, il est 13h.
Bonjour, des incendies toujours hors de contrôle. Les pompiers se battent encore contre les flammes à Los Angeles. Les décombres fument toujours. On se rendra à Altadena où les habitants tentent de voir ce qu'il reste de leur maison. C'était il y a 5 ans, un mystérieux virus d'origine inconnue fait son premier mort officiel en Chine. Le Covid-19 va ensuite donner lieu à une pandémie mondiale, mais 5 ans plus tard, vous l'entendrez, l'heure n'est pas vraiment aux commémorations pour Pékin. C'est par contre la fête à Adelboden, grande classique de la Coupe du monde de ski, la fête dans le public, nettement moins pour les slalomeurs suisses. Et ce samedi compliqué pour le ski helvétique se confirme chez les dames. Dans ce journal, on évoquera également les ambitions de l'AFD, le parti d'extrême droite, dans une Allemagne en pleine campagne électorale. On reviendra aussi sur le succès d'une nouveauté genevoise de ce début d'année, des abonnements de transport public gratuit pour les jeunes. Et puis on entendra la colère des paysans du Jura bernois qui veulent pouvoir continuer à faire des feux sur leur pâturage. Dans une quinzaine de minutes, le Point J revient sur la débâcle de Crédit Suisse. C'était il y a quasi 2 ans. On s'intéressera aux leçons à en tirer. Météo, soleil qui fait peu à peu son retour. Bienvenue dans ce 12-30. À Los Angeles, les pompiers se battent donc toujours contre des incendies hors de contrôle. De nouvelles zones ont été évacuées ces dernières heures et les autorités préviennent que le bilan préliminaire de 11 morts pourrait encore s'alourdir. Jordan Davis s'est rendu à Altadena, un des principaux foyers, où 3 jours après la catastrophe, les rescapés attendent de voir ce qu'il reste de leur maison.
À Altadena, les décombres fument toujours, rue après rue, réduite en cendres, l'air est âcre. Et les fuites de gaz sont nombreuses. Les policiers reconduisent les habitants qui tentent d'entrer dans la zone sinistrée. Brenda Mata a vu sa maison en flammes mercredi. Elle veut y retourner pour faire son deuil, mais aussi pour documenter les pertes pour les assurances. Il faut aller de l'avant, dit-elle. Sans ça, elle ne saurait pas quoi faire. Tiffany La Barbara Palmer montre des photos de famille qu'elle a mises dans sa voiture quand elle, son mari et sa belle-mère octogénaire évacuaient leur maison. Elle vit à plus d'un kilomètre de la montagne broussailleuse qui surplombe Altadena. Elle y avait vu des incendies par le passé, mais entre elle et la montagne, il y avait quantité de maisons. Jamais elle ne pensait que les flammes puissent arriver jusqu'à chez elle.
J'avance le long du périmètre et ce qui frappe ici, c'est le nombre de branches et même de petits arbres couchés. Ça montre la force de ces vents qui ont balayé Altadena. Et on voit des maisons intactes. Et tout d'un coup, on va voir 2-3 maisons calcinées. Ces vents portaient des braises très très loin.
À travers le comté, les policiers fouillent dans les restes et s'attendent à trouver de nouvelles victimes. Jordan Davis, RTS, Los Angeles.
C'était le 11 janvier 2020, il y a exactement 5 ans. Un mystérieux virus d'origine inconnue fait son premier mort officiel en Chine, dans la ville de Wuhan. Le Covid-19 va donner lieu ensuite à une pandémie source de chaos planétaire que vous avez probablement encore en tête. Alors Michael Pecard, vous êtes à Shanghai. Comment vit-on cette journée symbolique dans le pays où tout a commencé ?
Comme tous les autres jours, les autorités ou les médias d'État font pas référence à cet événement. D'ailleurs, attention, le pouvoir chinois pesterait sans doute contre votre introduction. Pour Pékin, la Chine n'est pas le pays où tout a commencé. Malgré les évidences factuelles, le Parti communiste chinois s'entête à affirmer que le virus a été importé à Wuhan de l'étranger. Le Covid reste ici vraiment un sujet sensible et pour cause. Faut dire que Pékin n'est pas du tout à l'aise avec sa gestion initiale de la crise. Les autorités avaient d'abord tardé à réagir, museler les lanceurs d'alerte, avant d'être finalement contraint d'adopter des mesures draconiennes pour tenter d'éradiquer le Covid. Une politique zéro Covid, dont le souvenir nourrit encore un certain ressentiment à l'égard du pouvoir dans plusieurs régions du pays. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si la récente irruption d'une autre épidémie, une épidémie de métapneumovirus humain, suscite une certaine inquiétude. Les rumeurs en ligne vont bon train face à l'augmentation des cas actuellement en Chine. Les autorités sanitaires et l'OMS rassure de leur côté et balaie toute crainte de nouvelles pandémies.
Et justement, alors Michael, qu'est-ce qu'on sait de ce métapneumovirus ? Est-ce qu'il est comparable au Covid ?
Alors certains symptômes sont les mêmes, toux, nez bouché, fièvre dans certains cas, mais les similitudes s'arrêtent là. Malgré un nom barbare, le métapneumovirus humain est bien connu, généralement bénin. Ce virus saisonnier circule chez l'homme depuis des décennies. Le nombre d'infections cet hiver en Chine reste dans les normes observées ces dernières années, selon les autorités. L'Organisation mondiale de la santé exclut pour sa part toute urgence sanitaire.
Michael Pecker à Shanghai. L'actualité du jour, c'est aussi du ski alpin et on se rend tout de suite à Adelboden dans l'Oberland Bernois, on vous retrouve Alain Thévaux, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une des classiques de la Coupe du Monde, un slalom aujourd'hui au programme. Et après la première manche, c'est la soupe à la grimace pour les skieurs suisses.
Oui, Loïc Meillard endossait pour la première fois de sa carrière le dossard rouge de leader de la discipline. Il était très attendu et il a enfourché dans le mur final. Il restait pourtant sur 3 podiums dans la discipline. Cela faisait 13 slaloms qu'il n'avait pas été éliminé et c'est arrivé dans son jardin, ici dans l'Oberland bernois. Le meilleur Suisse n'est que 10e. Daniel Yul est à 1:38 de Manuel Feller, l'Autrichien, qui a signé le meilleur temps devant l'Allemand Linus Strasser et le Français Clément Noël 3e. 3 autres Suisses s'élanceront en 2e manche. Tanguy Neff 20e, Luca Erni 22e, Marc Rocha 23e. Ils sont tous à plus de 2 secondes de Manuel Feller.
Et Alain, il y avait aussi une descente d'âme ce matin à Sant'Anton en Autriche, mais guère plus de réussite pour les Suissesses.
Oui, la meilleure Suissesse Berami n'a pu faire mieux que 12e. Cette descente avec un départ a été remportée par l'Italienne Federica Brignone qui s'est imposée devant la revenante, la Tchèque Esther Ledecka, deuxième à 18 centièmes. Federica Brignone a signé son 30e succès en Coupe du Monde, mais c'est le premier en descente. Le podium est complété par l'Italienne Laura Pirovano et les autres Suisses. Corinne Souter termine 14e, Michelle Guizine, elle, est 19e.
Merci Alain Thévaux en direct d'Adelboden. Et on précise que la deuxième manche du slalom messieurs est à suivre dès 13h30 sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'information. L'Allemagne, à présent, l'Allemagne en campagne électorale avant les législatives anticipées du 23 février. Plusieurs partis tiennent leur congrès ce week-end et notamment l'AfD, le parti d'extrême droite réuni à Riesa en ex-RDA. Nathalie Versio, le parti doit adopter son programme et définitivement élire sa coprésidente Alice Weidel comme tête de liste.
Le vote aujourd'hui est une simple formalité pour Alice Weidel que son entretien avec Elon Musk jeudi soir sur X a doté d'une aura plus internationale. Suivra la partie moins consensuelle du congrès pour ce parti réputé pour ruer dans les brancards. Les délégués devront délibérer sur 148 pages d'amendements déposées par les différentes fédérations. Un travail de longue haleine avec des débats particulièrement passionnés, attendus sur l'avortement, le service militaire ou encore la définition de la famille idéale. Ils devront aussi décider de l'avenir du mouvement de jeunesse de l'AfD. La direction du parti veut reprendre le contrôle sur ce mouvement particulièrement extrémiste, aujourd'hui placé sous le contrôle des services de renseignements intérieurs et qui nuit à l'image plus policée que veut se donner l'AfD. Nathalie Versieux, RTS Berlin.
Et cette réunion se tient sous haute sécurité. Plus de 10 000 manifestants anti-AfD se sont réunis dès hier soir dans la ville où se tient ce congrès. En France, les obsèques de Jean-Marie Le Pen ont lieu cet après-midi à 14h30 dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer. L'ex-leader de l'extrême droite française décédé mardi à l'âge de 96 ans. Ses obsèques se tiendront dans la plus stricte intimité familiale et avec un dispositif de sécurité afin de prévenir les éventuels troubles à l'ordre public. Et puis l'archipel de Mayotte à nouveau menacé par un cyclone. Il a été placé ce matin en alerte orange. La préfecture de ce département français d'outre-mer a mis en garde contre une dégradation significative des conditions météo dès ce soir. À Genève, le succès des abonnements de transport public gratuit pour les jeunes. L'offre est en vigueur depuis le début de l'année et en quelques jours, ils sont déjà plus de 25 000 à avoir été chercher leur sésame. Une offre réservée aux mineurs et aux moins de 25 ans en formation. Les seniors peuvent quant à eux obtenir un rabais de 50% sur leur abonnement annuel. Ils sont près de 6 000, les seniors, à en avoir profité. Reportage sur cette ruée avec Anouk Pernet.
Voici votre abonnement, valable à partir d'aujourd'hui.
Les clients s'enchaînent dans cette agence des transports publics genevois. Dans la file qui s'étire jusqu'à l'extérieur, ados, étudiants et familles viennent chercher des abonnements sans débourser un centime.
Je le paye toute seule mon abonnement et ça fait 45 francs de plus dans mon argent de poche du coup.
Je disais aux garçons tout à l'heure que c'est quand même un sacré coup de pouce, surtout pour le grand qui commence un peu à voyager seul, quoi.
Personnellement, je n'achetais pas l'abonnement, mais là, ça fait du bien, on pourra être serein dans les transports.
Ou ça reste qu'il y a avant. Mais vous preniez quand même le bus avant?
Non, pas tout le temps. J'ai le permis.
Et justement, encourager à prendre les transports en commun est un des buts de cette mesure.
Vous êtes là pour la prise en charge de l'État de Genève?
Autre public visé, les seniors qui bénéficient d'un rabais de 50% sur leur abonnement.
La vie, elle est tellement chère. Et ça arrive à la fin qu'on n'a presque rien du tout.
Et avec cet argent économisé, vous allez faire quoi?
Je vais économiser pour les autres choses.
Ces réductions ont été voulues par les autorités cantonales. C'est l'argent public qui les finance. Une aubaine pour la communauté genevoise de transport Uniréseau, reconnaît son responsable opérationnel Rémi Bury.
Là, il y a toute une partie de la population qu'on ne connaissait pas qui viennent et qui vont profiter de ça. Grosso modo, on faisait 30-35 millions de ventes auprès de ces jeunes ou auprès des aînés. Je pense qu'il y a quelques millions de plus qui vont être générés grâce à cette nouvelle loi.
Des millions qui seront investis dans le développement des transports publics à Genève.
Au revoir, bonne journée.
Le reportage signé Anouk Pernet. À Davos, le World Economic Forum, le WEF, se tiendra du 20 au 24 janvier et une participation record des milieux économiques et politiques est attendue. C'est le président Börje Brende qui l'indique aujourd'hui dans un entretien accordé oblique. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, il ne révèle pas qui fera le déplacement, mais des représentants de la future administration du président américain élu Donald Trump sont annoncés. Les paysans du Jura bernois veulent continuer à faire des feux sur leur pâturage. Ces feux dits de gestion agricole permettent de se débarrasser du bois coupé lors de l'entretien des pâturages boisés. Le canton de Berne a décidé dès cette année d'être plus strict sur sa pratique. Le bois devrait être valorisé autrement. Les feux seront uniquement permis dans des cas exceptionnels avec une autorisation spécifique. Mais les agriculteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont déposé hier une pétition, c'est la Berthollet.
Plusieurs centaines de signatures ont été remises. Elles proviennent en grande majorité d'agriculteurs de la région. Ils redoutent une surcharge de travail, comme l'explique Daniela Alemann-Gerber, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture du Jura bernois.
Cela compliquerait déjà le travail pour avoir une autorisation pour les feux, avec une paperasserie phénoménale. Et les délais pour ensuite avoir cette autorisation, ça serait sur 10 semaines et 10 semaines. Et comme on le sait, les agriculteurs, ils sont dépendants de la météo.
Les paysans ont dénoncé un manque de bon sens de la part du canton de Berne et l'ont accusé de ne pas tenir compte de la réalité du terrain. La réponse de Reynald Quelot, chef de la division Jura-Bernois à l'Office des forêts.
On comprend le côté changement. Quand il provoque un changement de pratique, il y a toujours une période où on se sent remis en question, on peut se sentir déstabilisé. Et il convient de développer des solutions pour s'adapter à cette nouvelle donne.
Le problème sera même empoigné par la politique. Le député UDC Maxime Oxenbein a prévu de déposer un postulat à la prochaine session du Grand Conseil bernois ce printemps.
Ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de modifier l'ordonnance de la loi sur les forêts. Il y a un article qui donne l'obligation aux agriculteurs de signaler les feux et puis de demander les autorisations à l'office forestier. Là, je pense qu'on pourra agir en abrogeant cet article ou en le modifiant.
Notons enfin qu'une discussion aura encore lieu fin janvier entre l'Office des forêts et la Chambre d'agriculture du Jura bernois.
Et on se rend à présent dans le canton de Neuchâtel où le secteur du tourisme vit une transition numérique importante depuis le 1er janvier. La Neuchâtel Tourist Card se présente désormais sous forme d'application. Cette carte d'hôte offre certains avantages quand on réserve un hébergement. Elle rencontre un grand succès auprès du public, un public très suisse ces dernières années, Covid oblige. Mais les objectifs sont en train de changer, Déborah Solbank.
Les cantons du Jura et de Neuchâtel ont été les grands gagnants du Covid au niveau touristique. Le secteur parle de gains Covid avec une augmentation de 23% des nuitées dans le canton de Neuchâtel par rapport à 2019. Des touristes suisses qui redécouvraient leur pays et bénéficiaient de nombreux avantages grâce à cette NTC, la Neuchâtel Tourist Card. La gratuité, les transports et des musées a motivé de nombreuses personnes à séjourner plus longtemps dans le canton. Désormais, ces touristes s'envolent à nouveau vers de lointains horizons et l'enjeu pour Tourisme Neuchâtelois est de maintenir malgré tout ce gain Covid. Le secteur mise maintenant sur l'étranger, notamment l'Italie et la France. Un marché qui a cartonné l'an dernier, explique Yann Engel, directeur du tourisme neuchâtelois.
Ça a dépassé nos espérances, mais pas seulement au niveau du canton de Neuchâtel. Donc on va continuer. C'est évident que sur le marché français, la NTC nous aide beaucoup en termes de pouvoir d'achat, de proximité aussi. Et puis l'Italie avec l'horlogerie et puis aussi avec l'aspect nature est quelque chose qui se développe fortement. Et les autres marchés via l'horlogerie qui nous permet d'avoir un angle d'attaque différent.
Visite de manufacture, fabrication de sa propre montre, 27 expériences en lien avec l'horlogerie sont proposées sur un site dédié et les touristes raffolent de cela. Une spécificité qui permet au canton de se démarquer, comme c'est le cas avec la NTC. La carte est entièrement financée par les taxes de séjour, c'est 2 millions de francs par année.
Sujet signé Déborah Solbank. Comme chaque samedi, on passe maintenant au point J qui nous propose de revenir sur la débâcle de Crédit Suisse il y a quasi 2 ans et les leçons à en tirer.
Salut, c'est Grégoire Moll. Vous vous souvenez du naufrage de Crédit Suisse ?
In an effort to bring some stability to the financial world, Swiss banking giant UBS agreed to buy its struggling rival Credit Suisse in a $3.2 billion deal.
C'était il y a presque 2 ans. En mars 2023, Crédit Suisse est racheté par UBS et dans les mois qui précèdent cette fusion, des dizaines de milliards de francs ont été retirés de Crédit Suisse par ses clientes et clients. Le cours de l'action de la banque chutait. Pour éviter la catastrophe, c'est-à-dire une trop grande déstabilisation des marchés financiers, les autorités suisses participent à la mise en œuvre d'une fusion entre Crédit Suisse et sa concurrente UBS. UBS accepte de racheter Crédit Suisse pour 3 milliards de francs et ce rachat est facilité par le Conseil fédéral. Suite à cette débâcle de la deuxième banque helvétique, une commission d'enquête parlementaire est mise sur pied. C'est très rare en Suisse une commission d'enquête parlementaire, il n'y en a eu que 5 dans toute l'histoire politique suisse. Cette commission, sa mission, c'est d'évaluer comment les autorités suisses ont géré la crise de Crédit Suisse et sa fusion avec UBS, effectuée dans l'urgence. Eh bien, ce rapport est fini, il a été rendu peu avant les fêtes de fin d'année. Près de 2 ans après cet événement, est-ce qu'on sait désormais quels sont les responsables de la débâcle de Crédit Suisse ? Ce naufrage ? À qui la faute ?
Le point J.
C'est une faute qui est à mettre sur le compte de plusieurs facteurs, de plusieurs astres qui se sont mis ensemble au même moment et qui s'est malheureusement traduit par la débâcle du Crédit Suisse.
Cette voix, c'est celle de John Plassard, spécialiste en investissement à la banque Mirabeau. En fin d'épisode, il nous dira ce qu'il pense des réglementations qui encadrent les activités des banques et s'il faut davantage les surveiller. Mais d'abord, revenons au rapport de cette commission d'enquête parlementaire, la CEP, sur la gestion de cette crise par les autorités suisses. À la RTS, on a la chance d'avoir une collègue qui a écrit un livre sur l'écroulement de Crédit Suisse. Ça s'appelle « La chute, chronique de la débâcle d'une banque ». Cette collègue, c'est Mathilde Farine, elle est journaliste économique. Bonjour Mathilde Farine.
Bonjour.
Je lui ai demandé si la commission d'enquête a permis de définir qui avait fauté dans cette crise.
Pas vraiment, disons. On a la sensation d'un système qui a complètement dysfonctionné, des informations qui n'ont pas circulé, mais on n'a pas une personne qui a été identifiée comme étant quelqu'un qui a commis une faute. Uli Maurer est souvent mentionné, mais la commission refuse de dire un conseiller fédéral a fait pire que d'autres. Donc elle reste quand même assez vague là-dessus. Sa conclusion, c'est que personne n'a commis de faute causale. Donc on peut comprendre ça comme étant une faute qui a contribué ou qui a causé la crise. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont très problématiques. Si on prend la FINMA, donc le gendarme des banques qui avait le rôle de surveiller Crédit Suisse, elle a accordé une sorte d'assouplissement des fonds propres. Cet assouplissement des fonds propres, il a complètement masqué la situation réelle de Crédit Suisse des mois avant la crise. Donc tout le monde a été persuadé que Crédit Suisse, bon, ça allait pas très bien, il y avait des problèmes de gestion des risques, il y avait des scandales à répétition, mais financièrement, ouais, ça allait quand même assez bien. Ce qu'on appelle les ratios qui peuvent décrire cette santé financière, ils étaient conformes, ils étaient même supérieurs à ce que demande le régulateur. En réalité, cette situation a été masquée parce que cet assouplissement a donné à Crédit Suisse. Et ça, on peut l'appeler comme on veut, c'est pas une faute causale, c'est quand même très problématique, hein, parce que ça a quand même complètement changé la perception des choses. Et puis l'autre chose, c'est que on a à la fois une FINMA qui a identifié tous les problèmes qu'avait Crédit Suisse, qui lui a demandé des changements, et puis tout ça, c'était des feuilles qui s'entassaient sur un bureau, mais les changements n'étaient pas faits. Donc on a quand même un régulateur qui n'arrive pas à se faire respecter. Il y a un côté rassurant, c'est qu'on voit que la FINMA, elle avait compris ce qui n'allait pas, tant mieux, mais le côté pas du tout rassurant, c'est que des mesures qu'elle a demandées n'ont pas eu d'effet. Donc pour une raison qui est difficile à dire comme ça, elle n'a pas eu l'autorité envers cette banque qui est normalement soumise à son autorité.
Je vous donne quelques chiffres pour mesurer l'ampleur de l'enquête de la commission d'enquête parlementaire. Elle a tenu 45 séances, mené 79 auditions et analysé plus de 30 000 pages de documents. Vous vous dites peut-être qu'il manque quelqu'un dans la discussion qu'on a avec Mathilde. On parle du Conseil fédéral, de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA. Mais on ne parle pas vraiment des responsabilités de la première concernée, la Banque Crédit Suisse. C'est parce que la commission d'enquête parlementaire, la CEP, c'est un organe de haute surveillance parlementaire. Son mandat, c'était d'étudier la façon dont les autorités fédérales ont géré la crise de Crédit Suisse. Donc son enquête ne s'est pas intéressée en détail aux agissements des dirigeants de la banque. Mais elle donne quand même son avis, brièvement. Sur la responsabilité de Crédit Suisse, dans son rapport, elle indique que, je cite, « le quasi-effondrement de Crédit Suisse et la fusion d'urgence qui en a résulté sont imputables à la crise générée par la banque elle-même ». Fin de citation. Et on peut souligner que ce n'est pas n'importe quelle banque qui s'écroule. Début 2023, Crédit Suisse est ce qu'on appelle une banque d'importance systémique.
Ça veut dire qu'elle a une importance pour le système. Ça veut dire que si elle fait faillite, elle peut mettre en danger le système. En l'occurrence, elle est censée pouvoir faire faillite. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a été apporté par les leçons de la crise de 2008, la grande crise financière. C'était de dire, bon, en fait, ces banques doivent pouvoir faire faillite. Elles doivent avoir ce qu'on appelle une sorte de testament. Si ça va mal, comment on les sépare, comment on les liquide sans que ça mette en danger la finance en général et l'économie aussi. Parce que, disons, l'importance des banques pour le fonctionnement de notre économie, c'est de prêter aux entreprises, c'est de faire le trafic des paiements, c'est que toi et moi, on ait aussi un endroit où déposer notre argent qui soit sûr. Et disons que ces grandes banques, si elles font faillite, elles secouent tout le système. Et puis après, on peut avoir d'autres banques qui ont des problèmes, des entreprises qui ont des problèmes, etc.
Avant sa chute, Crédit Suisse a trébuché, elle a connu plusieurs scandales, des changements rapides de dirigeants, notamment à partir de 2020, est-ce que les autorités auraient pu davantage s'alarmer ?
Finalement, ce qu'on comprend dans ce rapport, c'est que les autorités s'étaient alarmées. D'un côté, la FINMA, puisqu'elle a identifié les problèmes, puisqu'elle a demandé des changements, elle a fait des enquêtes sans que les changements se produisent. Puis de l'autre côté, ce qu'on apprend, et ça c'était vraiment quelque chose d'intéressant dans le rapport, c'est qu'on voit que beaucoup de scénarios ont été élaborés. Il n'y a pas seulement ce scénario du rachat par UBS, mais aussi le scénario d'une nationalisation, le scénario d'une liquidation, le scénario d'un rachat par une entreprise, une banque étrangère. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. Donc quelque part, les autorités, elles avaient quand même perçu le problème des mois avant. Elles ont travaillé à des scénarios. Mais à l'inverse, ce qui n'est pas du tout rassurant, c'est qu'on s'est quand même retrouvé en mars 2023 devant une situation d'extrême urgence où il a fallu précipiter Crédit Suisse dans les bras d'UBS. UBS qui, elle, était extrêmement bien préparée, ce qui lui a permis de poser des conditions.
Et puis effectivement, cette solution qui a été trouvée pour limiter la crise financière qu'aurait pu causer la chute, la faillite de Crédit Suisse, donc c'est cette fusion entre Crédit Suisse et UBS. Est-ce que le rapport dit quelque chose de cette solution ? Est-ce qu'il l'évalue ? Est-ce que c'était la meilleure option ? Et est-ce qu'il dit quelque chose aussi des conditions dans lesquelles la fusion s'est faite très rapidement ?
Oui, il est plutôt élogieux sur la façon dont les autorités ont géré la situation juste sur ces quelques jours de mars de crise aiguë. La conclusion, c'est que c'était la meilleure solution, que les autorités ont bien travaillé. Il y a eu quelques critiques sur le narratif un peu de dire c'est une solution commerciale, alors qu'en réalité, elle est quand même très orchestrée par les autorités.
Et puis, il y a des règles qui sont en place pour réguler, pour encadrer les banques, et notamment ces banques d'importance systémique. Est-ce que le rapport dit quelque chose de la pertinence de ces règles, puisqu'on voit qu'elles n'ont pas permis d'éviter finalement cette chute spectaculaire de Crédit Suisse ? Est-ce que ces règles ne sont pas respectées, ou est-ce que c'est que les règles ne sont pas assez pertinentes pour éviter une catastrophe ?
Alors, une partie, c'est que les règles ne sont pas suffisantes. Quelque part, après 2008, c'était aussi un petit traumatisme bancaire, puisqu'il avait fallu sauver UBS, et on avait quand même dit plus jamais ça. Donc, des règles avaient été créées, notamment la question des fonds propres, qui est en fait ce que le capital que détient la banque pour faire face à des crises. Ça, c'est des règles très importantes qui ont été mises en place. Des règles aussi pour, justement, rendre la faillite des banques possible, la liquidation en fait des banques. Et puis on voit qu'à partir de 2015, les volontés d'avoir ce cadre un peu plus strict, elles diminuent. Et ça, c'était une critique du rapport aussi, c'est que dans à la fois au Parlement et au Conseil fédéral, tout d'un coup, on cède un peu plus au lobby, on est moins dur avec les banques et que ça, c'est une partie du problème.
La commission d'enquête parlementaire a formulé des recommandations pour éviter qu'une situation telle qu'a connue Crédit Suisse en mars 2023 ne se reproduise. Qu'est-ce que tu peux dire de ces recommandations ? Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent impliquer de grands changements sur la façon dont le secteur bancaire est régulé en Suisse ?
Non, je ne pense pas que ce soit des grands changements. Il y a des choses, et d'ailleurs que propose le rapport qui avait déjà été mis sur la table par le Conseil fédéral l'année passée au printemps, notamment sur les pouvoirs à donner à la FINMA, les fonds propres que UBS devrait avoir. C'est des choses dont on a déjà discuté. C'est vraiment un renforcement de ce qui existe déjà, mais pas un changement drastique de la réglementation. Mon avis là-dessus, c'est que c'est important que ce cadre y soit renforcé. Mais on doit quand même toujours garder à l'esprit qu'une grande banque, une banque systémique, c'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise qui va toujours poser un risque différent, qu'on peut avoir un cadre bien plus strict, on peut avoir une FINMA qui fonctionne mieux. Ça, je pense que c'est le plus important, c'est le plus urgent. Mais on doit toujours garder à l'esprit qu'il y a un risque avec une banque. Alors on peut toujours dire, oui, mais Crédit Suisse, c'était spécial, c'était extrêmement mal géré. Oui, mais pas que. Parce qu'il y a aussi le fait que les banques, c'est un économiste qui l'a dit, c'est des institutions de beau temps. Et comme on l'a vu aussi avec Crédit Suisse, même si Crédit Suisse n'allait pas très bien, comme l'économie autour d'elle fonctionnait bien, ça allait. Mais dès qu'il y a une crise financière, dès qu'il y a des soubresauts dans l'économie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et ça aussi, la présidente de la FINMA le dit, il n'y a pas de casco complète pour les banques.
Merci Mathilde Farine.
Ben merci à toi.
Il n'y a jamais de risque zéro, il n'y a pas de risque zéro pour le domaine bancaire, mais il n'y a pas de risque zéro pour d'autres secteurs.
John Plassard est spécialiste en investissement à la Banque Mirabeau. Pour lui, les recommandations que la commission d'enquête parlementaire formule dans son rapport vont dans le bon sens, mais il n'est pas pour une surveillance accentuée des banques.
Pas spécialement. Depuis 2008, il y a quand même une révolution dans le domaine bancaire. On a eu des nouvelles réglementations qui ont été mises en place. Et c'est vraiment l'expérience des choses qu'on ne peut pas prévoir, qui arrivent souvent. Personne ne pouvait prévoir que le Crédit Suisse allait tomber, ce fleuron d'économie suisse. Et je dirais qu'on est dans une situation totalement différente qu'en 2008 et qu'on a déjà énormément avancé par rapport à ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Il est très compliqué aussi ici d'avoir un secteur financier où on a tellement de dépendance à non pas au propre du pays, mais aussi à d'autres réglementations, d'autres événements géopolitiques, par exemple, qui peuvent venir s'immiscer, qui peuvent évidemment, on ne peut jamais dire qu'on aura zéro risque. Il faut appliquer les règles qui existent, il faut bien évidemment aussi en rajouter pour prendre expérience du passé, de ce qui s'est passé en 2008, lors de la grande crise financière, et après, évidemment, en 2023. Et c'est l'expérience qui va apporter très certainement de nouvelles réglementations ces prochaines années. La chute du Crédit Suisse n'est pas due à un seul facteur, mais beaucoup de facteurs. Et c'est des facteurs aussi internationaux. La perte de confiance dans la banque, par exemple, d'investisseurs internationaux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc les réglementations sont ici et sont très efficaces, mais on est aussi dépendant de facteurs externes à la Suisse qu'on ne peut pas maîtriser.
Merci pour votre temps, John Plassard.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Merci à vous, les auditeurs et auditrices du Point J. On attend vos réactions, vos suggestions de sujets pour les prochains épisodes. Vous pouvez nous écrire ou nous envoyer un vocal sur WhatsApp au 079 134 34 70. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à lundi pour un nouveau Point J.
Le Point J épisode signé Grégoire Moll. Et puis on entendait dans le sujet le nom d'Uli Maurer. Eh bien, l'ancien conseiller fédéral est sorti de son silence aujourd'hui dans une interview accordée au journal Tamedia. L'ex-ministre des Finances rejette les reproches selon lesquels il aurait caché au Conseil fédéral la gravité de la situation. « Je n'ai rien caché, mais je n'ai informé qu'oralement », dit-il, car il n'avait pas confiance en l'administration et craignait une fuite. « Je referai exactement la même chose ». Pour Uli Maurer, il était clair dès la création d'une commission d'enquête et également lors de son audition, qu'il serait le bouc émissaire. Et puis on évoquait tout à l'heure le ski alpin et des résultats mitigés côté Suisse. Eh bien, surprise dans la descente d'âme de Sant'Anton, la Valaisanne de 21 ans, Mallory Blanc, partie avec un dossard élevé, a pris une très belle deuxième place. Un mot de la météo maintenant. Après les dernières faibles chutes de neige de ce matin, le temps deviendra plus ensoleillé à partir du nord-est. Maximum 3 degrés sur le plateau, jusqu'à 5 dans la vallée du Rhône. Demain, généralement ensoleillé avec quelques bancs de stratus sur le plateau. Le nord du Jura est probablement aussi en vallée. Il fera au mieux 2 degrés. Et puis lundi, ensoleillé également avec par endroits des bancs de stratus au nord des Alpes. Maximum 2 degrés.
Au cœur des Alpes suisses. Un hôtel 5 étoiles en plein hiver. Un pari fou pour André Morel, jeune visionnaire prêt à tout pour réaliser son rêve. Mais face aux imprévus, aux employés indomptables et aux exigences d'une clientèle impitoyable, son ambition est mise à rude épreuve. Une histoire envoûtante inspirée de faits réels, drames, passions interdites et naissance du tourisme hivernal de luxe. Winter Palace, une série RTS en collaboration avec Netflix, à voir dès le 26 décembre sur RTS1 et l'application Play RTS.
Tournée romande, Antonin Scherrer.
Vous aimez Brahms, Monteverdi, Debussy, ou alors vous êtes plutôt Mozart, Berlioz ou Ravel. Alors vous avez choisi Les Bonnes Ondes. Durant 2h30 avec Luc Thérapon, on vous propose le meilleur de la production musicale d'Espace 2, une dizaine d'extraits de concerts captés aux quatre coins de la Suisse romande. On commence ce voyage sur les hauteurs de Verbier, le 31 juillet 2019, en compagnie des membres du Quatuor Eben, interprète à l'église de la station Bagnarde du premier Quatuor à cordes en ut mineur de Johannes Brahms, premier des trois qu'il lègue à la postérité et qui est publié de façon groupée avec le deuxième sous le numéro d'opus 51. Il voit le jour un an après le Requiem allemand, soit en 1873. Il est d'abord présenté en privé devant Clara Schumann, puis créé en public le 3 décembre 1875 à Vienne par le Quatuor Helmsberger. Une dédicace en frontispice de la partition, le docteur Theodor Billroth, chirurgien et ami du compositeur.
Thank you. Thank you. Thank you.